Y a-t-il?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui.
Bonjour et bienvenue, le Festival de Cannes s'est achevé et nous allons en parler dans Cinérama. Non seulement on va en parler parce qu'on va revenir sur la cérémonie et puis le palmarès, mais on va aussi parler de deux films qui concouraient, deux films français, Marine.
Oui, moi je vais vous parler de L'amant double de François Ozon.
Et puis moi, je parlerai de Rodin, film de Jacques Doyon qui est déjà sorti pendant le festival. Et puis, vous allez aussi parler de deux films qui sortent le 31 mai, deux films américains.
Oui, alors moi, c'est un film anglais, à vrai dire, Conspiracy, mais avec un casting en partie américain. Un film involontairement comique, vous allez voir.
Et moi aussi, c'est un film anglais, en fait.
deux films anglais.
Et oui, c'est une production anglaise, The Autopsy of Jane Doe, réalisé par un Norvégien, en plus.
Voilà, un film international, deux films internationaux, en fait.
La mondialisation.
Voilà. C'est parti, c'est Cinérama.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Et on commence donc avec Conspiracy de Michael Apted. Alice Racine est une travailleuse sociale vivant à Londres dans un quartier menacé par la radicalisation. Mais en fait, tout ceci n'est qu'une couverture. Alice est une ex-interrogatrice de la CIA qui travaille pour le MI6, les services de renseignement anglais, car elle a préféré abandonner le terrain suite à un dramatique attentat qu'elle n'a pas réussi à déjouer. Lorsque le gouvernement fait de nouveau appel à ses services pour faire avouer un jeune terroriste, elle accepte la mission, mais se rend compte qu'elle a été flouée. La CIA a été infiltrée, à moins que ce ne soit le gouvernement anglais qui soit complice de Daesh, qui est peut-être lui-même à la solde de la DGSE. Si vous n'avez rien compris, c'est tout à fait normal, moi non plus.
Monsieur, ce n'est pas une ligne sécurisée.
On veut vous confier une mission importante à Londres. Débrief d'un prisonnier.
Je m'en occupe déjà.
Quoi? Je comprends pas. On n'a pas informé l'agence de Londres.
Alors, on a été infiltrés.
J'ai oublié de préciser que tout cela était sur fond d'attaques terroristes biochimiques.
Évidemment.
Évidemment. Alors, Conspiracy de Michael Apted nous noie dans un scénario inutilement complexe pour nous faire croire à un film intelligent, alors que, disons-le clairement, c'est con comme la lune. Le film hésite entre thriller à pistes multiples et gros divertissement bourrin. L'une des intentions du film, au moins, est claire, faire avec Conspiracy un Jason Bourne au féminin. Intention plutôt louable dans un paysage cinématographique encore trop viriliste. Porté avec conviction par Noomi Rapace, malheureusement un peu trop cantonné dorénavant à des rôles très physiques, Conspiracy a au moins le mérite de ne comporter aucun personnage féminin faible, insipide ou les fesses à l'air. Alors on a également convoqué autour d'elle tous les rescapés de Hollywood pour qu'ils viennent cabotiner et cachetonner. Michael Douglas, John Malkovich, Tony Collette et même Orlando Bloom qui confirme qu'il n'a décidément jamais été un bon acteur. On dirait une parodie des films d'action actuels qui reprendrait en même temps tous les clichés des films d'action des années 90. Alors tout y est, l'homme de main très méchant, aux cheveux peroxydés et au look néo-nazi, le gentil qui est en fait un traître, le compte à rebours à la fin qui est stoppé in extremis. Imaginez en plus tout cela dans un contexte contemporain de terrorisme islamique, ça a de quoi faire un peu peur. Heureusement, le message du film n'est pas trop bête, on évite de la xénophobie et le racisme. Alors il n'y a pas une once de crédibilité certes, le scénario est truffé d'incohérences, mais il faut dire quand même que les scènes d'action sont réussies, rythmées, efficaces. On nous noie sous des flots de violence gratuite, mais tout cela est plutôt bien mis en scène. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever au film, c'est son rythme soutenu, ses multiples rebondissements qui en font un film d'action réussi, même si en effet à la fin on n'a toujours rien compris.
Et en tout cas, c'est vrai que Noomi Rapace a du mal
à moi,
La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans Prometheus, où elle avait vraiment le rôle principal. Mais ensuite, je l'ai vue que dans des rôles plutôt mineurs.
Je crois en fait que depuis son dernier rôle dans Passion de Palma, qui était son dernier rôle un peu intelligent, on va dire, elle n'a fait que ça. Elle n'a fait que des films de SF et des films d'action.
Je crois qu'elle avait joué aussi dans le Soderbergh, effet secondaire.
Ah oui. Peut-être.
Il ressemblait d'ailleurs à Passion un petit peu, qui était sorti juste après.
Voilà, Conspiracy sort le 31 mai. On parle d'un autre film qui sort le 31 mai, c'est de Jane Doe.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Le cinéma de genre, surtout dans le domaine de l'épouvante, a tendance à se scinder en deux catégories. Alors d'un côté, des productions à la chaîne, pénibles, recyclant tout un bestiaire classique, souvent à tendance scato, actuellement du moins. Et de l'autre, des produits arty, bêtes de festival, comme It Follows ou The Witch, qui oublient parfois la fonction même de ce type de cinéma, celle de foutre la trouille. Mais les temps changent, certains jeunes frondeurs reviennent aux fondamentaux. Après l'excellent Get Out, sorti tout récemment, The Autopsy of Jane Doe enterre haut la main tous ses concurrents. Argument publicitaire imparable, mais qui peut avoir son petit effet en termes de fréquentation. Stephen King aurait déclaré ne pas s'aventurer seul dans une salle pour voir le film.
Il ne voit plus rien, il est presque aveugle.
Et alors, l'audiodescription existe. Alors, cette série B, au budget confortable, jouit d'un synopsis malin. La police ramène le corps immaculé d'une inconnue, rebaptisée Jane Doe, terme générique désignant une femme dont on ignore l'identité. Tommy Tilden et son fils Austin, médecin légiste, pensent avoir affaire à un cas simple et expédier l'autopsie rapidement. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Ils vont découvrir des choses étranges à l'intérieur du corps de la défunte. De plus, une force surnaturelle semble avoir envahi l'espace du crématorium. Alors, en dire davantage serait criminel, même si Jane Doe n'est pas une œuvre à rebondissement avec des twists à répétition.
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
D'abord, ils l'ont attaché, puis ils lui ont arraché la langue. Ils l'ont empoisonné, paralysé et forcé à avaler ce morceau de tissu.
C'est quoi ça ?
L'originalité du scénario tient dans son dispositif singulier, à faire des médecins légistes les personnages centraux d'un film de genre. Si l'on accepte la série Six Feet Under, ces adeptes du charcutage réglementaire sont généralement présents dans des thrillers glauques façon Seven ou Le Silence des Agneaux lors de séquences mémorables, mais ne dépassant guère les 5 minutes. Alors là, ils sont au cœur d'un récit constamment tiraillé entre le côté rationnel de la fonction et un basculement vers l'imaginaire, le fantastique pur invoquant les vieilles légendes et superstitions. Alors le scénario est solide, réserve son lot de surprises, mais fonctionne grâce à la mise en scène inventive, jouant habilement de son pouvoir de suggestion. André Ovredal utilise à merveille le hors-champ et crée un climat anxiogène oppressant. La qualité du découpage et les lumières blafardes intensifient l'aspect étouffant de ce huis clos maîtrisé. Alors pourtant, le film comporte aussi son lot de dissections gore dans un style quasi chirurgical, mais en osmose avec le sujet traité. Rien n'est gratuit dans ce travail d'équilibriste qui étonne de la part d'un réalisateur qui avait signé en 2010 un found footage sympa mais assez mal fichu avec Troll Hunter. L'histoire d'un troll géant. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non. C'était sorti en salle et c'est passé très vite à la trappe. Alors, si l'épilogue est déceptif, l'explication étant vite expédiée et conventionnelle, on peut saluer néanmoins les auteurs, le jusqu'au boutisme des auteurs, évitant le happy end de circonstances. Alors, cette production britannique doit aussi sa réussite à son casting impeccable. Sur ce plan, le cinéaste ne s'est pas trompé. Pour incarner le père et le fils, André Ovredal a eu du flair en confiant l'interprétation ni vraiment à des inconnus issus de la série B, ni à des stars, mais à de remarquables comédiens caméléons. Emile Hirsch, aperçu dans Into the Wild, mais surtout le Killer Joe de Friedkin, est excellent. Mais le choix le plus judicieux reste Brian Cox, comédien britannique absolument génial, qui n'a pas eu la reconnaissance méritée, éclipsé à mon sens par un certain Anthony Hopkins. Alors pourquoi dis-je cela ?
Eh bien, parce qu'il l'a mangé.
Non, pas vraiment. Tout simplement parce que Cox fut le premier à interpréter Hannibal Lecter, rebaptisé alors Lector dans Manhunter de Michael Mann, adaptation de Dragon Rouge de Thomas Harris. Alors son jeu tout en finesse, très intériorisé, m'a toujours semblé supérieur à celui plus démonstratif d'Hopkins. Alors, hasard des calendriers, on peut aussi admirer le comédien dans un film sortant le 31 mai, puisqu'il incarne Churchill dans le film éponyme. Enfin, Owen Catherine Kelly en Jane Doe ne fait pas grand-chose, voire rien du tout. Eh ben oui, ben c'est comme ça. Mais sa présence est parfois glaçante. Alors pour moi, une réussite, vraiment une petite série B qui donne un peu d'oxygène à un cinéma de terreur qui commence depuis 2-3 ans à se renouveler, avec quelques productions, notamment celle de Jason Blum, qui font plutôt du bien dans un paysage plutôt morose.
Alors par contre, vous n'étiez pas d'accord, je vous ai entendu parler hors antenne de ce film que vous avez vu tous les deux.
En effet, je trouve que l'idée de base est super intéressante, mais alors vraiment pour moi au niveau du traitement, il n'y a rien de novateur, mais enfin, absolument tout a déjà été fait, tout a déjà été utilisé, par exemple la petite musique vintage là qu'on a entendue, mais ça a déjà été fait mais x fois dans des films d'horreur, enfin tout, n'importe quel effet de mise en scène a déjà été vu en fait, donc rien n'est surprenant.
Je pense que n'importe quel film que l'on voit aujourd'hui, les choses ont déjà été faites et c'est plutôt la manière de...
Alors moi je pensais justement que It Follows m'avait vraiment surpris en bien là-dedans, parce que j'avais été constamment surprise.
Bon, on ne sera pas d'accord. Hein. C'est un peu trop poseur, It Follows.
On réglera ça sur le ring tout à l'heure.
Et en tout cas, Anthony Hopkins termine mal sa carrière, je trouve. Je l'ai vu dans la bande-annonce de Transformers, le prochain qui va sortir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans?
Ah bah, il cachetonne partout. Hein. Okay. C'est vraiment un acteur qui a très mal sa carrière a très mal viré. En fait.
Alors que Brian Cox, dont tu parlais, donc, lui continue à faire des films.
Churchill.
Voilà. On va maintenant parler de Cannes.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, petite surprise, hein, trois films ont particulièrement marqué cette 70e édition du festival You Were Never Really Here, de la Britannique Lynn Ramsay. Montré le dernier jour de la compétition, il y a le film russe aussi, Faute d'amour, et puis le français, 120 battements par minute. Mais on n'attendait pas de Square. Alors, en tout cas, on va faire un petit rappel de ce qui s'est passé lors de la cérémonie présentée par Monica Bellucci. On a 3 minutes pour ça.
Merci de votre présence et merci de renouveler votre amour pour le cinéma ici ce soir. Le cinéma, cet art qui a la faculté de nous extraire de la réalité pour mieux nous y replonger.
Vous avez énormément d'imagination.
Heureusement qu'à 70 ans, on est encore un tout jeune homme et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Il est donc espéré qu'à l'avenir, beaucoup plus de réalisatrices prendront leur juste place.
Je n'en crois rien.
Nous avons choisi de donner la caméra d'or à une réalisatrice qui s'appelle Léonore Serrail pour son film Jeune femme.
Je suis quelqu'un qui adore l'organisation et qui se calme.
Pour ce qui est des ongles pas faits et rongés, ça c'est pas possible, c'est sûr.
Ça me manque de piquant, avouez, non?
Mr. Pedro Almodovar.
We have a first... Surprised.
Voici, nous avons notre première surprise. Le jury a décidé que pour cette catégorie, nous avons en fait 2 lauréats.
So, le prix de le scénario est attribué à Yorgos Lanthimos et Evgenis Pavlov pour The Killing of a Sacred Deer.
How long does it take for the hair to grow back?
I don't know.
Lynn Ramsay for You Were Never Really Here.
Airport. Thank you so much.
Merci infiniment.
We were finishing the movie 5 days
Nous avons terminé le film il y a 5 jours, je crois.
Au suivant.
À qui avez-vous décerné le prix du jury?
Loveless.
Кто знает, чья это заслуга?
Messieurs, je vous remercie, ce sera tout.
Le prix d'interprétation féminine est attribué à Diane Kruger.
Thank you so much, au jury.
Le prix d'interprétation masculin est attribué à Joaquin Phoenix.
I'm sorry, I don't speak French.
Le prix de la mise en scène est attribué à Sofia Coppola.
Vous en êtes sûr?
We ask for your protection over our school and we pray that we will be kept from harm throughout the night.
Amen. Et le Grand Prix est attribué à 120 beats per minute par Robin Castillo.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale.
Évidemment, on peut penser que ce film est un hommage aux gens qui sont morts, mais c'est aussi un hommage à ceux qui ont survécu et qui tiennent encore aujourd'hui.
Je t'ai jamais demandé ce que tu faisais dans la vie.
Bah moi dans la vie je suis Serampo, c'est tout. Voilà quand ça se résume.
Palme d'or est attribué à le film de Ruben Östlund, The Square.
Voilà, ça c'est un extrait de la bande-annonce. Ils ont dû se presser d'ailleurs, les Suédois. Je crois qu'ils n'étaient pas, ils étaient pas prêts en fait à recevoir cette palme d'or. Donc pour The Square, palme d'or attribuée à Ruben Östlund. À noter que là, je ne l'ai pas précisé, mais il y a aussi la palme d'or du court-métrage avec une mention spéciale. Palme d'or du court-métrage. Un film chinois, Xiao Cheng Er Yu, Une nuit douce. Voilà, traduction. Donc, The Square, on va en parler rapidement quand même, parce que c'est la Palme d'Or. C'est l'histoire de Christian, en fait interprété par l'acteur danois Claes Bang, qui est conservateur d'un musée d'art contemporain en Suède, qui prépare une exposition sur la tolérance et la solidarité. Il va inaugurer donc The Square, une installation incitant les visiteurs à l'altruisme et leur rappelant leur devoir à l'égard de leur prochain. Mais le conservateur se heurte à ses propres limites en la matière lorsque son univers bascule après le vol de son portable et de son portefeuille. Alors, la critique de l'art contemporain à l'œuvre dans The Square n'est pas nouvelle et a pu agacer principalement les critiques de la presse de gauche, les plus mal à l'aise à voir l'illustration d'un univers artistique qui n'arrive pas à connecter ses œuvres à la société. Ce que nous montre le réalisateur suédois, c'est que tout au plus, les œuvres artistiques exposent peut-être les enjeux, et souvent maladroitement, donc les enjeux de la société, mais les individus qui sont derrière, de l'artiste au commissaire d'exposition en passant par les communicants, sont incapables d'appliquer ce que peut dénoncer une œuvre, alors même qu'ils sont chargés de la choisir et de l'expliquer. Alors c'est peut-être un peu facile d'opposer le monde ultra-lissé d'un centre d'art et la population de nantis qu'il charrie avec la misère de la rue, pourtant avec ses belles images, différentes séquences qu'il prend autant au comique de situation burlesque qu'à l'humour noir, Hubert Östlund parvient à nous faire traverser les 2h22 du film avec un plaisir jubilatoire. Alors tout comme dans son précédent film Snow Therapy, avec ce père qui abandonne sa famille à la première avalanche venue, le réalisateur suédois évaluait donc le rôle de l'homme au sein de la famille moderne. Avec The Square, il questionne le désengagement des hommes derrière les œuvres engagées. Voilà, c'est un film... Alors, pour l'instant, la date n'est pas encore donnée, sa date de sortie, mais c'est un film, moi, qui m'avait vraiment marqué, parce que non seulement il dure effectivement 2h22... que la salle a plutôt bien fonctionné, donc la salle cannoise, c'est pas forcément tout le temps évident, et pourtant il y avait du rire, et voilà, il paraît que le producteur, c'est ce qu'il a dit, hein, pendant la cérémonie, le réalisateur suédois, que son producteur a dit, mais pourquoi ce film ne dure pas plus longtemps, et c'est vrai que finalement on prend énormément de plaisir à regarder ce film. Et en plus, il fait une part belle. Alors ça, on le voit dans les photos qui sont transmises avec le film. Il fait une part belle aux expositions de tas. Dans les centres d'art contemporain, il y a souvent des tas. Là, en l'occurrence, ce sont des tas de graviers qui sont disposés dans une salle. Et mais dans tous les centres d'art contemporain du monde, ça peut être des tas de jouets, de bonbons, enfin peu importe. Voilà, c'est la culture du tas. Bon, c'est une critique peut-être un peu facile. Je sais que Libération a détesté. Je pense que les Cahiers du cinéma vont pas apprécier plus que ça.
Je crois qu'ils ont détesté aussi.
Voilà. Et Le Figaro, par contre, a énormément apprécié, ce qui fait que ça, on a l'impression que c'est vraiment un film de droite contre des critiques de gauche. Enfin, c'est assez étrange. En tout cas, c'est une palme d'or assez consensuelle. Voilà, c'est ce qui ressort de ce festival de Cannes. En tout cas, pour moi, c'est vraiment inattendu. En revanche, le grand prix du jury, 120 battements par minute, lui avait fait vraiment l'unanimité. Alors, on l'a tous les deux vu, Marine. Oui. Peut-être qu'on peut en parler rapidement, peut-être déjà sur ce qui s'est passé dans la salle.
Alors pour moi, qui ai quand même du coup fait les 10 jours de festival, donc le festival dans son intégralité, pour moi c'est un des rares moments où il y a eu une émotion commune dans la salle. De tous les films que j'ai pu voir, vraiment ça et Jeune Femme, le film qui a eu la caméra d'or et ce qui pour moi est totalement mérité. 120 battements, vraiment, c'est un des rares moments où vraiment on sentait déjà qu'il y avait très peu de gens qui se levaient pour partir, alors que le film dure quand même 2h30. Et il y avait vraiment cette émotion, cette symbiose, et à la fin tout le monde sortait en larmes, enfin. C'est très émouvant. C'est un peu le nouveau La Vie d'Adèle, même si ça n'a rien à voir, hein, je veux dire, au niveau, enfin, dans le sens, c'est un film français, c'est un film fleuve, c'est un film très fort dans son traitement, dans ce qu'il raconte, et c'est très réussi.
Oui, je trouve qu'il est très bien construit. Enfin, il y a d'abord effectivement, enfin, toute cette période d'activisme, d'act up. À un moment où le sida faisait vraiment beaucoup de ravages et les pouvoirs publics étaient un peu, enfin, c'est sans contaminer, c'est tout ça, les pouvoirs publics n'agissaient pas vraiment. Et puis, il y a aussi cette histoire d'amour et puis de mort, parce qu'effectivement, ça fait des morts. Oui. Et le film joue très bien sur ces deux.
Oui, sur la pulsion de vie, sur la mort qui est toujours présente, qui est toujours là en filigrane, et le film se finit comme ça, sur cette scène qui évoque la pulsion de vie qui est toujours là, présente malgré tout.
Il s'ouvre très bien, merveilleusement bien, et se termine très bien. Alors ça aussi, il y a des films, on pourrait en parler longtemps. Il y a des montages qui existent sur Internet pour montrer comment un film s'ouvre et comment un film se ferme. Et là, vraiment, il s'ouvre très bien et se ferme très bien. Enfin, il y a une certaine cohérence, alors que ça montre deux aspects d'un même problème. Et je trouve ça vraiment, vraiment subtil et fort, parce que ça parle de notre époque. Voilà.
Oui, et en plus, c'est un des films qui va sortir le plus tôt. Enfin, de toute la compète et de tous les films à Cannes, puisqu'il sort le 23 août.
Le 23 août, oui, c'est le jour de mon anniversaire.
Eh bien, super, tu iras voir le film.
Tu risques de pleurer, voilà. Après, c'est vrai qu'on risque de pleurer, mais c'est pas pour autant du pathos à dégueuler. Voilà.
Pas du tout.
120 battements par minute, donc de Robin Campillo, qui est très lié à Laurent Cantet, et son aussi,
Gilles
voilà.
Marchand, je crois aussi.
Possible.
Oui, cas, c'était, c'est, oui, c'est un peu une équipe, en fait, avec Gilles Marchand, qui est le scénariste de certains Laurent Cantet aussi. Mmh.
Voilà, ainsi s'achève eh bien, ce petit point sur Cannes. On espère y retourner en tout cas l'an prochain, et on vous parlera au fur et à mesure des émissions eh bien, des films que l'on a vus lors de cette 70e compétition cannoise. Et on va parler de deux films français qui concouraient à Cannes.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Che cinema vieto, a lancé un journaliste italien à Cannes à l'issue de la projection de Rodin, le nouveau long-métrage de Jacques Doyon. Alors selon les témoins présents, la scène est rapportée différemment. Hein. J'ai lu aussi que c'était un journaliste espagnol qui aurait lancé à l'adresse de toute la salle « Tu cine es viejo ». Voilà. Bon, c'est pas...
Ce qui veut dire pas.
Ben, ce qui veut dire « ton cinéma est vieux ».
Ah.
Pour identifier le meilleur témoignage, il suffirait de demander eh bien, le temps de sommeil moyen hein, du témoin pendant son festival de Cannes, lui demander s'il n'a pas trop insisté sur les soirées où le champagne est servi jusqu'à plus soif. Alors quoi qu'il en soit, espagnol ou italien, on va retenir le jugement, ce cinéma est vieux. Et Rodin avait peu de chances d'obtenir une palme d'or, la sanction de la salle est souvent une bonne indication. Son sujet n'est pas sans intérêt, il s'agit d'un artiste consacré comme l'un des plus grands sculpteurs de tous les temps et pionnier de la sculpture moderne. Alors d'accord, Rodin passait le plus clair de son temps dans son atelier à chercher comment modeler la matière, lui donner de la sensualité, mais quel ennui quand il s'agit de le représenter au cinéma, même quand on y place une femme, une maîtresse et disciple, soit Camille Claudel et quelques artistes de l'époque ici et là.
La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Chez moi, c'est la terre qui vient en premier.
Le film commence alors qu'Auguste Rodin a 40 ans et reçoit sa première commande de l'État. Ce sera la Porte de l'Enfer, héritée de Dante, composée de figurines dont certaines feront sa gloire, comme le Baiser et le Penseur. Mais le film de Jacques Doyon va suivre un autre fil rouge, la statue de Balzac que le sculpteur tente d'imposer à ses contemporains sans que ceux-ci ne soient prêts à l'accepter. Il lui faudra des années hein, pour que cette œuvre, point de départ de la sculpture moderne, conquiert public et critique. Pour raconter la chanteuse Barbara, Mathieu Amalric, également projetée à Cannes, s'est servi d'un biais, le tournage d'un film sur l'artiste. Pour raconter Steve Jobs, Danny Boyle nous a placés en temps réel et en prise directe avec le personnage. Ici, pour nous raconter Rodin, Jacques Doyon fait le pari d'une exposition scolaire et sans fantaisie aucune. Les plans séquences abondent dans l'atelier pour nous laisser voir comment le génie travaillait la matière et son sujet. Ainsi, le regard tout comme le geste sont liés à la sculpture dans un même plan. On aura l'occasion à plusieurs reprises de voir le maître caresser un tronc d'arbre noueux ou les fesses d'une modèle. Pour le reste, on voit l'artiste revenir inlassablement à la tâche. On le voit également aux prises avec celle qui deviendra sa femme, Rose, et évidemment avec celle qui fut son élève et sa maîtresse, Camille Claudel. Là encore, Doyon expose en quelques séquences, comme s'il fallait bien passer par là, les scènes de connivence artistique, de passion amoureuse, mais également de franche prise de tête entre les deux artistes. Si Vincent Lindon parvient à donner du corps à Auguste Rodin en maugréant et marmonnant trop souvent des dialogues incompréhensibles, Izia Higelin a quelques difficultés à faire exister le personnage de Camille Claudel. Alors c'est majoritairement le plan séquence, là encore, qui est choisi par le cinéaste pour faire jouer les deux acteurs. Un risque. Alors Doyon est réputé hein, quand même pour faire tourner jusqu'à l'épuisement acteur et technicien en vue d'obtenir la bonne prise. J'imagine qu'il y a passé du temps, mais sans, à mon avis, de réussite. Le malaise donc est ailleurs, il ne manque rien à ce long métrage hein, qui s'épanche pendant 2 heures. Doyon inscrit bien Renoir dans son temps, comment il est en avance et inadapté à son époque. Il en profite pour faire apparaître Monet et Cézanne, et puis encore Mirbeau, histoire de bien nous faire comprendre que c'était un grand artiste, bien entouré, et comme si on pouvait en douter. On nous sert également du maître par-ci par-là. Renoir n'était pas non plus qu'un homme perdu dans le travail, hein. On lui reconnaît des maîtresses et on n'y échappe pas, l'atelier n'étant pas qu'un lieu où les modèles posent, mais également où l'on en dispose. Mais là, Fesmol l'emporte quand même sur le désir dans ses séquences. Tout n'est pourtant pas à jeter dans ce long métrage, mais une fois qu'on a saisi ce que Rodin place dans ses sculptures de sensualité et d'exigence de vérité, le reste tombe à plat et l'ennui prend le dessus. La lumière froide nous replaçons certainement à la fin du 18e siècle n'arrange rien, à croire que le soleil était toujours voilé à l'époque, et les dialogues, quand ils sont audibles, sont parfois trop écrits, à l'image du long métrage qui manque de fraîcheur et de nouveauté. On termine justement eh bien, en écoutant un extrait de ces dialogues.
Est-ce que j'ai pu les faire tourbillonner? Encore et encore. On peut dire que j'ai valsé avec eux. Ils vont où, mes danseurs? À l'amour ou à la mort? C'est quoi les trois temps de la valse?
Étreinte. Vertige. Et la passion.
L'approche. Et le tourment. La mort.
C'est le pire de la prise de son du cinéma français. Hein, enfin, et là encore, on arrive à peu près à comprendre, mais bon, parfois, il faut vraiment César. Tendre l'oreille. Donc voilà, je pense qu'ils ne pouvaient absolument pas avoir la palme d'or, même si ça aidait les étrangers, puisque eux, ils avaient les sous-titres et pouvaient s'en sortir. Voilà, on passe de Rodin au François Ozon.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi?
Avec toi, je ne connais que le sexe.
Et lui, tu penses le connaître?
Non. Pas vraiment.
Lequel de nous deux est le plus séduisant?
Je sais pas.
Tu ne sais pas. Tu ne veux pas me le dire.
Quand je suis avec toi, je pense à lui. Quand je suis avec lui, je pense à toi.
On passe à L'amant double de François Ozon. Chloé est une jeune femme fragile, instable, dont les tendances à somatiser la conduisent à consulter un psy, Paul. Très vite, ils tombent amoureux et emménagent ensemble, mais Chloé commence à avoir des doutes. Elle découvre que Paul porte un autre nom de famille et qu'il a un jumeau, psychothérapeute lui aussi, mais dont le comportement diffère radicalement. Intriguée d'abord, puis fascinée, elle commence à fréquenter Louis, le jumeau de Paul, et entame une double relation qui va la mener aux confins de la folie.
Tu me caches des choses? Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler?
Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout.
J'ai besoin de savoir maintenant. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille?
Tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis.
Pourquoi tu me mens?
Moi, je te mens pas, Chloé.
Je t'ai vu en sortant du musée.
Mais tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait.
Tu es un monstre.
Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre. Mais que des êtres humains.
Et former un couple si parfait. Alors est arrivé ce qui est arrivé.
Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur. Me faire du mal.
Alors François Ozon n'est pas double, hein, il est plus que cela, il est multiple. Son cinéma explore la pluralité des thèmes, des registres, et son leitmotiv est le suivant: faire toujours un nouveau film contre le précédent. Nous l'avions donc laissé avec Franz, ce beau mélodrame historique en noir et blanc, multi-nommé au César. On le retrouve dans un thriller érotico-psychologique présenté la semaine passée au Festival de Cannes en compétition. Alors non, L'amant double n'était pas un sérieux concurrent pour la Palme d'Or, c'est même un Ozon mineur, bien que même les films les moins réussis de Ozon ne soient jamais totalement raté non plus, de mon point de vue. Trop sinueux, inutilement alambiqué, L'amant double cherche à nous happer par une intrigue complexe, retorse à nous immerger dans une ambiance perverse et malaisante à souhait, mais on ne ressent au final qu'une impression très surfaite devant ce thriller tourné dans de jolis intérieurs parisiens. Puis la mise en scène n'est pas inspirée, elle est voyante, elle est appuyée, auquel on n'est pas bien compris que le thème du film était le double. Ozon y va à la pelleteuse pour nous le signifier. Du split screen, en veux-tu, en voilà, des reflets dans le miroir, dans les vitres, du dédoublement, des scènes de fantasmes et de rêves, à tel point que le spectateur ne sait plus différencier le vrai du faux. Ozon fait le choix de poser sur ses personnages un regard froid, clinique, tellement clinique que le film s'ouvre sur un utérus en gros plan, ouvert bien profondément par le biais d'un spéculum, et cela donne le ton du film. Beaucoup de maniérismes et d'effets tape à l'œil qui n'ont pas vraiment de sens. Je rappelle quand même que le réalisateur lui-même n'est pas capable d'expliquer son film. Ozon réussit alors presque parfois à faire glisser son intrigue vers des dimensions horrifiques, mais le scénario inutilement complexifié et ultra chichiteux fait que le film tourne souvent au ridicule. Alors si l'influence de De Palma est manifeste, Le cheminement intérieur de l'héroïne, son rapport ambigu à la mère, ses névroses, font avant tout penser à Black Swan, à tel point que certaines scènes du film semblent presque plagier le film de Aronofsky, mais alors en beaucoup moins bien. Et sans vouloir remettre en cause le talent de Jérémy Régnier et de Marine Wacht, les deux comédiens n'ont pas du tout les épaules pour assumer les personnages ambigus qu'on voudrait leur faire endosser. Ils sont dans le surjeu permanent, ils ne sont pas du tout taillés, je pense, pour moi, pour le thriller. Et pour eux, comme pour Ozon, eh bien, c'est un film qu'il est préférable d'oublier. Mmh. Moi, ça m'a fait rire, ce qui n'était pas du tout le but.
Alors, moi, ça m'a pas fait rire, mais effectivement, c'est vrai que la mise en scène est très tape à l'œil. Enfin, les miroirs, on les voit tout le temps, enfin, c'est assez insupportable au final. Mais la salle a quand même bien réagi parce qu'il y a des gens qui criaient. L'aspect thriller peut fonctionner, me semble-t-il.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Voilà, on a tellement rien à dire qu'on n'a aucune idée du sommaire de la semaine prochaine, donc on vous laisse, eh bien, aller dans les salles obscures.